que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Oh, c'est gentil, mais pourquoi tu chantes comme ça?
Mimi, samedi soir, je te rappelle, on a soirée karaoké. Je répète.
Vous écoutez l'agité du local.
La magie du direct peut être énormément de choses. J'ai une confidence à vous faire. La magie de cette émission, c'est quand elle commence à l'heure. Pour vous, mais aussi pour notre programmateur Joël. Le direct, c'est un sport, un rendez-vous avec l'imprévu, mais surtout avec vous, amis auditeurs. Bienvenue dans l'agité du local et bienvenue à mon invité d'aujourd'hui, Julie Aubry, chargée de la médiation et de l'action culturelle pour le 6x4, enfin pour l'association Poc Poc. Merci Julie d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Et donc on va parler ensemble aujourd'hui du projet FM1 qui est un projet participatif. On va en dire quelques mots dans quelques instants. Et comme nous sommes mardi, l'auditeur de l'autre radio le sait et l'attend, c'est aussi le jour de la lecture de l'auditeur. Et c'est donc Vincent aujourd'hui que l'on écoutera après cette interview. On restera ensuite à Laval pendant toute cette émission puisque nous allons ensuite au théâtre pour rencontrer Pierre Jamais qui nous parle du festival Poupazzi qui va commencer très bientôt. Et oui, le 27 octobre d'ailleurs, donc un temps autour de la marionnette qui s'échappe un peu du théâtre pour aller aussi à votre rencontre. Et on termine en beauté, en douceur, comme chaque mardi avec notre chroniqueur Donatien. Mais je le disais, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui et je suis très contente que tu sois avec nous, Julie. Donc je le disais, tu es chargée de médiation et d'action culturelle pour l'association Poc Poc. Qui porte donc le 6x4 et le festival Les Trois Éléphants que l'on connaît très bien. On parle aujourd'hui du projet participatif FM1. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ce projet ?
C'est un projet de scénographie dans l'espace public qui compte une vingtaine de partenaires de secteurs bien différents. Tous les ans, en fait, on remet en jeu un thème. Qu'on choisit ensemble, une palette chromatique également qu'on choisit ensemble, et puis ça nous, c'est notre fil rouge en fin de compte pour l'année, et chacun, chacune construit des décors, plastiques, en volume, avec des matériaux de réemploi le plus souvent possible, et en fin de compte ces œuvres participent à une exposition en plein air. Le temps d'environ 2 à 3 semaines.
Donc pendant le festival des Trois Éléphants, c'est à ce moment-là vraiment qu'on découvre tout le travail qui a pu être fait tout au long de l'année.
C'est ça.
Donc c'est un projet, tu le disais, qui crée du lien entre différents partenaires. Il y a notamment des acteurs issus du handicap, de la jeunesse, de l'éducation, du social, de la santé. Comment est-ce que ces collaborations se mettent en place? Et peut-être quel est l'effet du croisement de ces publics que toi tu peux constater directement?
Déjà, en fait, on essaie, nous, d'accompagner en tout cas la réunion de ces différents secteurs d'activité, différents publics. Donc, on mène des temps de concertation qu'on appelle en début d'année. Donc là, il y a encore 2-3 semaines, c'était notre première rencontre, en fin de compte, à la SCOMAM. Et puis, il y en a plusieurs temps comme ça dans l'année qui permet aussi d'accompagner les idées, de réfléchir ensemble. Voilà. Et puis après, il y a des temps collectifs de création. Là, on va justement, c'est un petit peu la nouveauté de cette année, c'est de mettre en place des temps plus collectifs pour que les publics se rencontrent. Et du coup, ce qui s'opère lors de ces temps collectifs, hors l'installation, je pense que c'est, disons, l'échange qui peut se faire entre les générations. Et puis aussi la naissance de projets aussi qui se vivent sans nous. Le FM1, c'est un outil avant tout pour certains professionnels, pour certains publics, de valorisation. Et aussi, hors du FM1, se passe des fois la naissance de nouveaux projets en dehors. Voilà, ce qui peut s'opérer d'année en année, en tout cas, que les gens se retrouvent en dehors du FM1.
Donc, tu le disais, je crois que c'est la 4e édition de ce projet-là. Est-ce qu'il y a eu une évolution, des nouvelles idées qui ont émergé depuis ?
L'évolution, c'est qui peut se voir en tout cas du côté du grand public, c'est la place que le FM1 a pu prendre en centre-ville, qui était au démarrage en tout cas vraiment tenue à l'intérieur de la promenade Anne d'Allègre. Et puis est sortie un peu des murs. Donc là, c'est une dizaine de sites en centre-ville qui sont habités, décorés. Voilà, c'est surtout ça en fait, c'est l'ampleur physique, l'implantation en ville qui a pu prendre peut-être un peu plus de place.
Chaque année, il y a un thème différent. Donc cette année, comment est-ce que choisis ce thème? Comment est-ce que vous le pensez ensuite?
Généralement, le thème naît du visuel de l'édition des Trois éléphants. On réfléchit ensemble et voilà, on se dit l'affiche nous parle de cette manière ou d'une autre manière, et donc voilà, le thème ce sera ça. Cette année, c'est pas né dans ce sens-là, parce que en fait c'est un peu la richesse aussi de l'associatif, c'est que le visuel n'est pas arrivé avant la première réunion. Donc du coup, on est parti surtout là d'un matériau qui allait animer cette saison du Fémin. Qui est le matériau du textile, le fil et le textile. Et puis à la prochaine réunion, là en novembre, à la prochaine rencontre, on va faire naître à partir du visuel, la palette chromatique. Et peut-être aussi, les participants à la première réunion disaient, il faudrait qu'on arrive à tirer une sensation, un sentiment du visuel. Voilà, donc on va aller chercher ça en fait.
Oui. Et donc vous êtes accompagnée par une professionnelle qui va être plus présente cette année encore, parce que on parle de scénographie dans la ville, donc c'est quand même quelque chose pour le penser, c'est quelque chose surtout dans un centre-ville qui est encore en travaux actuellement. Je pense que pour penser tout ça, c'est aussi un défi.
Eh bien oui, en fait, on ne pouvait pas... notre cœur de métier, ce n'est pas vraiment la scénographie, clairement. Mais par contre, on aime à accueillir des œuvres sur le festival. Donc du coup, on a Tiffany Pichon, qui est scénographe plasticienne, qui accompagne les idées des porteurs de projets et qui va essayer de trouver des solutions techniques et puis appuyer aussi la bonne mise en œuvre. Des installations.
Tu parlais tout à l'heure de réemploi, c'est-à-dire que quand on voit toutes ces différentes actions que l'association Poc Poc, que le festival met en place sur le territoire, on parle à la fois de lien social, mais c'est aussi du lien social, mais je veux dire aussi quelque chose qui valorise le réemploi, qui met en avant toutes ces valeurs que...
Oui, en tout cas, c'est aussi une manière que de rassembler les personnes, que de collecter des matériaux, de faire parler du projet. Et donc, du coup, en fait, y a pas mal d'habitants, d'habitantes de Laval et des environs et du département qui ont entendu parler du projet et qui, du coup, viennent avec des sacs, avec du matériel qui sera réutilisé par les porteurs de projet dans leurs œuvres. Et donc là, ça a commencé à arriver d'ailleurs, sans même qu'on ait encore trop parlé du projet. Donc à partir de demain, à mon avis, ça va arriver, ça a déboulé. Et du coup, il y a aussi beaucoup de partenaires qui sont associés à ce projet, qui sont par exemple Emmaüs, qui sont les déchetteries de Laval Agglomération, qui contribuent aussi à mettre des bacs de collecte une fois que les porteurs de projet ont dressé une liste de matériels qui les intéressaient pour construire leurs œuvres.
Cette liste, est-ce qu'elle est accessible pour les... Comment est-ce que l'habitant, Lavallois par exemple, qui se dit, bon, moi j'ai un grenier qui est chargé ou une cave qui est chargée de matériel, est-ce que je peux donner des choses? Comment est-ce que ça se passe éventuellement?
Cette liste sera dressée à partir de la mi-novembre par les collectifs qui vont créer. Et elle sera visible sur le site internet du 6x4 et elle sera aussi visible dans toutes les structures, en fin de compte, qui participent à ce projet. Donc, ce sera une grande affiche A3, hein, clairement. Donc, pour les gens qui fréquentent, en fait, ces lieux, du coup, la liste sera visible à ce moment-là.
D'accord.
Voilà.
Combien de rendez-vous sont prévus tout au long de l'année pour mettre en place tous ces décors? Parce que c'est assez conséquent en tant que spectateur, que fidèle du festival. On constate, à quelques deux semaines, je pense, avant le festival, l'installation qui se met en place, qui s'implante dans toute la ville. On imagine que c'est un très gros travail derrière, quand même, qui prend du temps.
Ça prend du temps, effectivement, mais pour beaucoup de satisfaction à l'issue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on réitère ce projet, parce qu'on voit que ça génère aussi pas mal de choses. Et donc, du coup, c'est une quinzaine de dates dans l'année, qui sont autant, je disais, des temps de réflexion, donc les fameuses concertations, mais qui sont aussi des temps de création collective, des temps donc collectifs dans les structures, ou des temps, là on va initier ça cette année, des temps collectifs aussi organisés par l'association. Pour que les gens puissent se rejoindre dans un lieu et créer ensemble et se rencontrer, parce qu'autrement, dans les structures, il n'y a pas forcément à chaque fois cette mixité. Voilà, jusqu'au temps de l'installation, voilà, il y a une quinzaine de dates. Ouais. Et puis, il y a aussi des dates pour se nourrir l'esprit et les yeux, qu'on appelle. On a un partenaire qui sont les musées de la ville de Laval, qui, là, cette année, crée une date... spécialement pour le FEM1, le 5 décembre exactement, le matin, où les professionnels, et pas que aussi, bénévoles, usagers, des structures participantes, peuvent venir justement au Manas et étudier ce fameux corpus d'œuvres en lien avec la thématique du FEM1 de cette année.
C'est vraiment un croisement en fait entre des enjeux sociaux et puis la création artistique. Tout ça se met en place et puis permet de créer du lien. J'imagine que tu vois des belles rencontres qui se font sur ce type de projet.
Mais oui, entre les professionnels aussi, c'est toujours comme je disais que le FEM1 était un outil. Ça permet aussi aux professionnels de secteurs différents de se rencontrer, d'apprendre sur les pratiques des uns et des autres, et aussi au public de pouvoir voilà, travailler ensemble, se rencontrer à l'échelle d'une ville.
Si un auditeur est un peu curieux et aurait éventuellement envie de rejoindre l'aventure, comment est-ce que ça se passe ?
Eh bien, soit de se rapprocher d'une des structures participantes, type maison de quartier, en tout cas structure qui accueille déjà son public et puis qui ouvre ses ateliers, FEM1. Et puis aussi, autrement, de venir à... On a un temps collectif où on invitera particulièrement les individuels. C'est le 19 et 20 mars. Ça s'appelle l'usine du FEM1. Et c'est un temps où, en fait, on peut venir aider les collectifs qui sont en train de créer leurs œuvres. Venir les aider à compléter l'œuvre, à aboutir la création.
Donc chacun vient avec ses compétences, même s'il n'y en a pas trop, finalement c'est l'occasion d'apprendre et de passer un moment convivial.
Oui.
Ce projet fait partie d'un ensemble de projets qui, de l'ombre, on peut appeler ça comme ça, c'est un peu le mot qu'on a mis avant le début de ce direct. C'est important de dire que l'association POC POC, tout comme beaucoup d'associations qui portent aussi des festivals sur le territoire, ont à cœur de porter... des projets comme ça qui créent du lien et finalement créent une vraie dynamique sur le territoire.
Oui, c'est des cheminements effectivement un peu dans l'ombre. C'est des étapes de projet qui ne sont pas visibles. On n'en parle pas forcément parce qu'on le vit surtout. Et qui génèrent tellement, en fin de compte, à la bonne réussite aussi des événements. En termes d'image, certes, mais surtout hein, ce que ça peut véhiculer vers... Chez les personnes qui participent à ce genre de projet.
On imagine par exemple quelqu'un qui n'irait pas forcément au festival, le fait d'avoir participé par exemple à la construction de toute cette scénographie, ça peut aussi donner envie de se dire bon bah allez, finalement je le connaissais pas, j'y serais pas forcément allée, c'est l'occasion.
Oui, on retrouve justement pas mal de ces publics accompagnés ou pas d'ailleurs, mais qui participent en tout cas sur le festival, sur les différents temps que propose le festival. Ouais. Et c'est ça qui est chouette.
C'est ça qui donne du sens, j'imagine, aussi. Le résultat compte autant que tout le processus de création, finalement.
C'est une vraie relation, en fait, qu'on crée tout au long de l'année. Et c'est une belle surprise, souvent, que de voir les gens devant le spectacle à l'issue de toute cette année passée ensemble.
Mais en tout cas, merci Julie d'être venue nous en parler. On invite l'auditeur de l'autre radio qui serait intéressé et curieux à se rapprocher de différentes structures telles que les maisons de quartier si l'envie lui vient de rejoindre cette aventure. Merci beaucoup d'être passée dans notre studio pour nous en parler, Julie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc on va faire maintenant une pause musicale. C'est un titre qui est sorti aujourd'hui. Il s'agit de Old Friend de Zao de Sagazan et Tom O'Dell. Écoutez. Thank you.
Quand la machine m'emporte vers les paysages, il vient et m'apporte des larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude alors de l'inviter. Il vient chanter pour moi, me fait pleurer parfois. Souvent, même si je n'étais pas là pour ça, il me fait pleurer ma foi. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I am very proud of the person you become. Where I am weak, oh, you seem strong. See into your soul when I listen to your songs. I shut my eyes and I hear you sing. I feel a storm underneath my wing. And I know we'll be friends until the bitter end. And I know we'll be friends till the bitter end. Don't have worry, don't have worry, don't have worry, don't have worry.
L'agité du local, c'est votre émission quotidienne et ça continue avec un moment lecture, celui d'un auditeur, celui d'un Mayennais qui partage avec nous son livre de chevet.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, je l'imagine quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, et c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
La lecture de l'auditeur aujourd'hui, c'est celle de Vincent. Qu'est-ce que tu vas nous lire ?
La voix du guerrier.
Et alors, la voix du guerrier, de quoi ça nous parle ?
Alors, la voix du guerrier, c'est un livre qui s'inspire du livre The Lost Samurai, le samouraï perdu. Et dans ce livre-là, il y aura beaucoup de leçons tirées de la vie des samouraïs dans l'ancien temps, entre 1500 et 1800. Par rapport à leur mode de vie, tout était un peu tourné autour de la guerre, mais il y a des techniques et des manières d'être qui peuvent être calquées dans notre société actuelle. Et donc, dans plusieurs passages, on peut avoir des leçons sur la manière d'être en public, la manière d'être intérieurement. Et si vous êtes dans un environnement professionnel, il y a souvent un monde de concurrence. Et la guerre dans ce livre fait un peu référence à la concurrence en entreprise, et voilà.
On t'écoute.
Alors, chapitre 44, devenez une figure de référence. Au Japon, l'empereur est considéré comme le dirigeant légitime du pays, mais la famille impériale n'a pas exercé de réel pouvoir pendant presque 1000 ans, parce que les samouraïs s'étaient frayés un chemin au sein du gouvernement et en avaient pris le contrôle. De la même manière, votre mission est de prendre le contrôle sur le sujet que vous avez choisi. Le but de chaque samouraï était d'atteindre le sommet, pas nécessairement de système entier, puisqu'ils demeuraient les sujets de leur seigneur. Ils se devaient d'être les meilleurs au sein de leur groupe. Une fois que vous avez établi un haut niveau de connaissance sur la voie de votre choix, ainsi que de solides fondations dans une large gamme de sujets associés, vous êtes prêt à vous faire un nom dans une communauté plus large. L'objectif est de devenir quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'acquérir une réputation. L'objectif est de devenir quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'acquérir une réputation d'expertise sur votre sujet de prédilection et d'être ouvert aux questions de tout niveau, sans mépris pour les plus basiques. Si vous avez l'intention de vivre de votre sujet de prédilection, alors cherchez à devenir une figure de référence qui se met au service de sa communauté, prodiguant informations et conseils, ou bien si vous êtes décidé à accomplir au sein d'une entreprise, ayez pour objectif d'être un exemple pour vos collègues, même si votre sujet n'est pas la source de vos revenus, maintenez une attitude de serviteur de votre chemin. Votre tâche est de prodiguer des conseils et un cadre à votre entourage. En retour, vous commencerez sans doute à acquérir une réputation grâce à votre remarquable connaissance de votre sujet. Une fois que vous avez de solides bases dans votre domaine, aventurez-vous dans le monde extérieur. Positionnez-vous toujours publiquement à 90% de votre aptitude, gardez un peu de votre expertise en réserve. Ne vous survendez jamais, mais ne nous sous-estimez jamais non plus vos compétences, pour ne pas risquer la fausse modestie qui devient en réalité à se surestimer. Dans la culture japonaise, s'affirmer en public relève d'un équilibre délicat. Un individu est d'autant plus puissant qu'il est connu tout en sachant demeurer discret. La renommée passe donc par le fait que l'on parle de vous, alors que vous attachez à préserver un certain degré d'intimité.
Merci Vincent. Pourquoi avoir choisi ce texte et pourquoi est-ce que tu l'aimes bien ?
De manière générale, je suis beaucoup dans les livres qui sont dans le développement personnel. C'est toujours important pour moi de savoir, d'avoir des modèles de comment bien se tenir en public, avec les amis, avec les gens qui sont en dehors de notre cercle. Aussi, comment évoluer dans ma voie, dans mon parcours professionnel. C'est assez important parce que moi, je ne me vois pas vivre tout le long de ma vie sans évoluer.
Eh bien, merci Vincent. Je vous le disais tout à l'heure, on reste sur Laval aujourd'hui puisqu'on va maintenant parler du festival Poupazzi qui a lieu du 27 octobre jusqu'au 14 novembre. C'est un festival de marionnettes et justement, j'ai tendu mon micro à Pierre Jamet, directeur du théâtre, pour qu'il nous en parle.
C'est le moment effectivement où on sort beaucoup de nos murs. On est présent dans une dizaine de communes de l'agglomération, dans les bistrots, au pied des tours, dans les quartiers, sur le marché. Et l'occasion aussi de tisser des liens avec un paquet de bibliothèques, d'associations. Et ça, c'est vraiment peut-être ce qui fait la particularité de ce temps-là.
On parle de théâtre de marionnettes, mais alors je pense toujours à l'auditeur qui n'aurait jamais vu du théâtre de marionnettes. Qu'est-ce qu'on peut dire du théâtre de marionnettes ? Parce qu'il y a une grande diversité en fait, de propositions.
Bah, c'est pour ça que ça nous passionne en fait, c'est que dans ce qu'on met dans la marionnette d'aujourd'hui, il y a aussi le théâtre d'ombre, il y a le théâtre d'objets, les nouvelles écritures numériques, il y a beaucoup de choses, la poésie mécanique, tout ce qui n'est pas le théâtre, la danse, il y a de plus en plus des artistes qui hybrident en fait les choses. Et donc sûrement des spectacles ont une dimension aussi très visuelle aussi. C'est aussi ce qui nous passionne en fait dans ce champ-là, qui est effectivement qui est très large, très vaste. Quoi.
La marionnette, ça s'adresse pas seulement aux enfants. Il y a des temps qui sont particulièrement peut-être plus adressés même aux adultes.
Complètement. À la fois dans ce festival, il y a à la fois des moments où on peut venir en famille avec ses enfants à partir de 3-4 ans, mais il y a vraiment des temps qui sont exclusivement dédiés aux adultes. On a un programme de cinéma qui est dédié vraiment aux ados adultes à partir de 14 ans. Puis il y a aussi beaucoup de spectacles avec aussi un propos clairement destiné aux ados et aux adultes. Quoi.
Le festival Poupazzi, finalement, c'est un temps qui rayonne effectivement sur le département, régionalement, mais aussi ça commence à émerger au niveau national.
Bah effectivement, c'est un peu la vitrine du Centre National Marionnette de Laval. C'est un moment aussi où on partage avec le public la grande diversité, la vitalité de ce champ pendant 20 jours. Et effectivement, c'est l'événement un peu de référence maintenant en région. Et puis, oui, il y a des collègues, des professionnels qui vont venir un peu toute la France pour découvrir des créations, des choses. On essaye effectivement d'asseoir cette dimension-là. Mais notre attachement le plus fort, il est aux gens qui vivent ici, quoi, aux habitants du territoire de Laval Agglo.
Et alors, il y a 5 créations qui se sont installées sur différents temps au Théâtre de Laval. Donc, pour certains, les premières dates, en fait, finalement, ici à Laval.
Ça, c'est aussi une des particularités, c'est que comme Centre National Marionnettes, on a vraiment pour mission d'accompagner l'émergence de spectacles importants. Des fois, on accompagne des spectacles qui jouent très peu de fois, et puis on accompagne aussi parfois des tubes. Là, on a accompagné, il y a 3 ans, un spectacle qui s'appelle Pouvoir par des Belges. Pareil, là, ils jouent des centaines de fois dans le monde entier. Il y a plein d'histoires très différentes. Et effectivement, Poupazzi, c'est le moment où, en fait, où les compagnies font leur première, où les professionnels viennent découvrir les spectacles. Donc, c'est une des particularités aussi de ce festival, d'accompagner le début début d'aventure. Quoi.
Donc c'est un festival qui dure une vingtaine de jours. La première semaine, comme ça tombe pendant les vacances scolaires, on est sur des propositions un peu plus familiales.
Exactement, on le fait comme ça depuis des années. Donc là, effectivement, pour les familles, pour les grands-parents qui ont leurs petits-enfants en garde, etc., il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Il y aura évidemment ce gros temps fort, bazar bizarre, cette espèce de fête foraine un peu loufoque là, qui sera dans le hall du théâtre. C'est gratuit, on peut venir comme on veut le matin, l'après-midi. Il y aura ça, évidemment, mais il y aura aussi plein de choses dans l'espace public. Il y aura des spectacles dans les bibliothèques. Enfin, il y aura plein, plein de choses. Là, il faut vraiment que les gens aillent sur notre site internet, trouver la plaquette, la programmation. Il y aura beaucoup, beaucoup d'offres. Ouais.
Il y en a qui sont attendus ou vous savez d'ores et déjà que finalement ils font leur première ici, mais ils vont cartonner un peu partout.
Alors on ne sait pas s'ils vont cartonner parce qu'on ne les a pas vus, mais en tous les cas, ils vont beaucoup jouer. Ouais. Subjectif Lune, de la compagnie Les Maladroits, qui va raconter l'histoire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Oui, celui-là, il va jouer dans la France entière et il est très, très attendu. Jean Clone de Aïe Aïe Aïe, qui répète en ce moment au théâtre là, sur le clonage, l'intelligence artificielle, ça aussi, c'est très, très attendu. Ça va jouer dans beaucoup de gros festivals, à Rennes, à Paris, un peu partout. Donc oui, il y a des choses dont il y a une grosse attente, ouais, effectivement, de la profession et puis du public.
Le théâtre de marionnettes, est-ce que c'est quelque chose qui, dans le temps, a toujours un peu existé de la même manière ou est-ce que c'est quelque chose qui revient ?
Bah en fait, il y a très longtemps, le UBU, avec Louis Le Mercier de Neuville, toutes ces figures lavalloises d'il y a quelques siècles, aller à la cour du roi, railler leurs contemporains, c'était déjà des choses qui pourraient se rapprocher de ce qu'on a connu avec les guignols de l'info sur Canal+, il y a quelques années. C'était vraiment l'art subversif et pas du tout destiné aux enfants. Voilà. Donc, ouais, quelque part, il y a une sorte de clin d'œil de l'histoire au fait que Laval redevienne une place forte en fait, des arts de la manipulation, puisque c'est aussi dans son histoire. Et il y a beaucoup de joie, effectivement. Après, il y a des cycles dans la création artistique. En ce moment, effectivement, il se passe plein de choses géniales dans les arts de la marionnette un peu partout. C'est beaucoup pour ça que beaucoup de théâtres, beaucoup de programmateurs un peu partout dans le monde s'y intéressent, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'innovations, d'inventions à cet endroit-là.
Quand on parlait notamment, par exemple, les guignols, j'imagine que c'était des petits formats, mais on a aussi des formes géantes. Finalement, tout est possible, la créativité n'a pas de limite.
Exactement, ça peut être effectivement le Puccinella avec quelqu'un tout seul dans la rue, ou par exemple le Boxed, qu'on va accueillir Ariel Doron pendant le festival, qui est un marionnettiste israélien très connu, il va aller dans les cafés avec juste ses deux mains. Et ça peut être des très grands formats, comme la clôture du festival, on va accueillir le Point Zéro, l'adaptation du Songe d'une nuit d'été, où là il y a une dizaine d'acteurs, performeurs sur le plateau, des musiciens, où là c'est effectivement c'est la très grande machine. Quoi, voilà.
Et alors, par exemple, il y a aussi Plan B. Donc là, la marionnette, ce sont des lettres.
Là, c'est des lettres de mousse. C'est des tout jeunes artistes qui sortent de l'école et qui ont présenté cette maquette à des professionnels à Paris. Là. Et on a tous été complètement cueillis par la virtuosité de leurs propositions. Et là, effectivement, les marionnettes, c'est des lettres de mousse. Donc à la fois, il y a des mots qui se dessinent, qui bougent, qui dansent, qui changent. Ça fait des personnages et tout. C'est assez virtuose et assez étonnant. Hein.
Vous, en tant que programmateur, vous voyez donc les spectacles des fois à leur phase de création initiale. C'est toujours intéressant, j'imagine, de voir un peu le début, les premières écritures, et puis après voir la forme finale, comment ça a évolué. Des fois, il doit y avoir un certain grand écart, ce qui est normal dans le processus artistique.
Ah ouais, puis des fois, même les spectacles ne sont pas prêts à la première, mais sont prêts à la 10e, à la 20e représentation. Ça peut arriver aussi. Mais des fois, il y a des compagnies, elles sont prêtes immédiatement, dès la première, c'est magique, ça se passe. Voilà, chaque équipe artistique a son processus, son chemin pour vraiment créer. C'est aussi la magie du spectacle vivant, quoi. C'est ce qui en fait aussi un art fragile aussi, quoi. Mais oui, c'est ce qui est aussi passionnant dans le métier, c'est qu'on est un peu de l'intérieur aussi, on voit un petit peu les choses se combiner. Là, on parlait tout de suite de Jean Clone, là, il répète par petits bouts. Là, on voit toujours pas ce que ça va donner au global. On n'a pas vu le squelette encore. Voilà, mais on voit plein de morceaux, plein de séquences. Voilà, donc eux, c'est leur manière de créer. Voilà, chaque équipe a sa façon à son processus.
Chacune des chroniques m'est chère dans cette émission, vous le savez, et celle que l'on retrouve chaque semaine, c'est celle de Donatien. Et aujourd'hui, il nous parle de patience.
Séjour en Tunisie tout compris à partir de 279 €. Séjour en Crète, hôtel 5 étoiles, pension complète au départ de Nantes, une semaine, 889 €. Le ciel bleu, l'eau turquoise, la carte postale est séduisante, mais Donatien n'aime pas voyager. Donatien n'en a pas la patience. Petit déjà, il fallait patienter dans la voiture des parents, patienter jusqu'à la fin des repas interminables, patienter jusqu'aux petites vacances pour ne plus avoir de leçons et patienter jusqu'aux grandes vacances pour revoir la mer, la plage, tenir Cécile par la main, explorer les dunes et se perdre sous les pins à l'odeur de résine et de miel. Aujourd'hui, si Donatien se décide à partir au soleil une semaine, il va lui falloir patienter pour obtenir les billets, patienter pour prendre le train puis l'avion, patienter à l'aéroport à l'enregistrement des bagages, patienter avant le décollage et patienter à l'atterrissage pour récupérer sa valise. Et puis, pendant 8 jours au restaurant, il va lui falloir patienter pour avoir une table, patienter pour passer la commande, patienter pour être servi, souvent le temps de prendre son téléphone portable et sur l'écran de faire une patience pour tromper l'impatience.
Mais alors, Donatien, je croyais que pour toi, patienter, c'était espérer.
Patienter, c'est espérer, oui, pour un rendez-vous galant. Mais patienter sur un quai exposé au vent, dans un hall bruyant, dans une file d'attente, dans un bus surchauffé, non, merci. Or, il se trouve que les Chinois, toujours à la pointe de l'innovation, ont créé un site internet, une application comme on dit, pour contacter un kidam afin qu'il patiente à votre place.
Mmh. Quelqu'un qui patiente à votre place, oh, voilà une bonne idée.
Eh oui, en voilà une idée qu'elle est bonne. Un simple numéro, puis 2 ou 3 clics, et quelqu'un ou quelqu'une patiente pour vous, chez le dentiste, chez le médecin, à la sécurité sociale, au centre des impôts, voire aux urgences où chacun a déjà fait l'expérience de contempler, en soupirant, les lentes aiguilles de la pendule pendant d'interminables heures. Imaginez la scène au restaurant. Vous commandez un demi-homard et le temps qu'il soit pêché et cuisiné, le kidam vous remplace et vous contacte quand c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à vous régaler et à choisir entre le beurre ou la mayonnaise. Donatien se demande pourtant si le temps perdu n'est pas à l'existence ce que l'imprévu est à la vie, l'essence même. Donatien n'envisage donc pas de télécharger cette application. Pas plus qu'il n'envisage d'aller voyager en Chine. Il va se perdre sur sa route vagabonde, prendre la route la plus longue à la recherche de la source, ou boire à pleine bouche, ou se baigner, ou se noyer. Une manière rafraîchissante de prendre son mal en patience.
Bonne âme sœur du bout du monde, voici la route la plus longue, voici le temps.
Ça c'est régional.
Moi j'ai le temps, je vous le donne. Il est midi à peine à Rome et quelque part. Il est trop tard. Mon âme sœur du bout du monde, j'ai pris la route la plus longue, j'ai pris le temps. À chaque instant, moi j'ai le temps et tout m'étonne, bien que ce soit presque l'automne, mon bel amour, ma belle de jour. Je peux bien perdre une seconde, puisque ma route vagabonde nous a gardé l'éternité. Moi j'ai le temps, ma sœur, mon âme, de te chercher dans chaque femme que j'aimerai, que j'oublierai, pour découvrir en toi la source où je boirai à pleine bouche, pour m'y baigner, pour m'y noyer. Moi j'ai le temps. Quand je vous le donne, il est déjà minuit à Rome, il se fait tard, et je repars. Demain, qui sait, un jour peut-être, nous saurons bien nous reconnaître, mon bel amour, ma belle de jour. Demain, qui sait, un jour peut-être, tu me feras enfin renaître. Oh mon amour,
C'était « Moi, j'ai le temps » de Serge Reggiani, vous l'avez reconnu. L'agité du local s'arrête ici. Merci à Julie Aubry de l'association Poc Poc d'avoir été avec nous. Merci à Vincent pour sa lecture et merci évidemment à notre chroniqueur Donatien. L'agité se termine, mais c'est pour laisser place à de belles émissions. Je vois d'ailleurs que votre soirée commence à 19h avec l'équipe de Haut Catherine, donc c'est la deuxième de saison. Si vous ne connaissez pas, j'ai envie de vous en dire quelques mots parce qu'ils ont quand même quelques règles, notamment parler des dernières découvertes musicales. Tous les styles sont acceptés sauf le reggae. Attention, il est interdit de mettre les coudes sur la table. Et puis la dernière règle, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, on se détend ce soir avec Haut Catherine à partir de 19h. Ensuite, la soirée continue autour du rap français. Vous le savez, c'est l'émission Frères de Chaussures animée par Fatshu. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'agité du local. Je serai bien accompagnée puisque je serai avec Anne Chamaret de la compagnie du Moulin en Herbe. Et donc voilà, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et puis vous le savez, je vous le dis chaque jour, je me répète un peu, mais on ne le dit jamais trop, je crois, j'en suis convaincue. S'il vous plaît, faites-le bien.
C'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.